Radio Okapi. Journal présenté par Patience Ngaloula.
D'abord les titres de ce journal. Détournement présumé des fonds par les bureaux sortants du Sénat. Les ministres de la Justice et garde des Sceaux annoncent l'ouverture d'une enquête judiciaire. C'est pour fixer l'opinion sur ce dossier devenu viral sur la toile congolaise. Les congrès américains diligentent une mission en RDC sur la situation qui prévaut à l'est du pays. Ces représentants qui séjournent déjà à Kinshasa ont été reçus hier par les présidents de l'Assemblée nationale. Célébration ce jeudi de la journée internationale Nelson Mandela. Radio Okapi reçoit dans ce journal le professeur Kaumba Lufunda, auteur du livre Ubuntu, philosophie de Nelson Mandela. Il revient sur l'importance de cette journée. Bonjour à toutes et à tous. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, annonce l'ouverture d'une enquête sur les soupçons de détournement des fonds au Sénat. Il l'a dit hier, mercredi, au président du bureau d'âge de la Chambre haute du Parlement, Pascal Kindwelo. C'était lors d'une rencontre au Palais du Peuple, rapporte l'agence congolaise de presse. Selon les ministres, cette enquête vise à fixer l'opinion sur ces dossiers et lutter contre la criminalité financière au sein des institutions publiques. Jeff Ngoy.
Constant Mutamba rappelle les bruits qui couraient sur le détournement présumé des fonds par le bureau sortant du Sénat et qu'il était alors question pour lui d'assurer et rassurer le bureau provisoire des termes de l'enquête judiciaire diligentée. Cela dans le but d'éclairer le peuple congolais sur la photo qui a circulé et où l'on a vu des anciens sénateurs avec des briques d'argent sur la table. Plus rien ne sera comme avant et c'est à l'issue des enquêtes qui sont jusque-là inquisitoires que nous fixerons l'opinion sur les mesures urgentes et coercitives qui seront prises, déclare-t-il. Tout commence le 6 juillet quand le ministre instruit la police judiciaire des parquets de diligenter en urgence cette enquête relative au détournement remettant en cause quelques membres de l'ancien bureau du Sénat. Il convient également de signaler que bien avant, soit le 1er juillet, il y a eu la saisine de l'inspecteur général des finances par le président intérimaire du bureau sortant concernant un détournement de 3 millions de dollars selon lui. Mais le bureau que préside Pascal Kindwelo a réfuté ces allégations. À l'en croire, il aurait hérité jusqu'à 3 millions de dollars de dettes du bureau sortant.
Dans la province du Maniema, l'ONG Akizabinadamu Maniema, après plusieurs dénonciations sans suite favorables sur la spoliation des biens du domaine privé de l'État, décide de saisir le gouvernement à cet effet. Selon son secrétaire exécutif, cette situation paradoxale est causée par ceux-là même qui sont appelés à y veiller. Ainsi donc, Raphaël Upele Lelokenga recommande une opération de récupération de tous ces biens spoliés et acquis illégalement par diverses personnalités politiques, administratif et militaire. On l'écoute au micro de Florence Kizalunga.
Nous saisissons le gouvernement central parce que ça fait un bout de temps, nous avons adressé nos doléances auprès des autorités provinciales, mais qui malheureusement ne s'occupaient guère. C'est pour cela qu'après les enquêtes, nous avons trouvé que parmi elles, il y a certains qui sont aussi des spoliataires. C'est pour cela que nous saisissons aujourd'hui le gouvernement central pour qu'il puisse diligenter une enquête des spoliations des patrimoines, des biens, des domaines privés de l'État en termes de maisons, immeubles, emprises, des terrains des entreprises publiques et de l'État qui sont d'une manière frauduleuse et puis aliénées, vendues au mépris souverain des règles de procédure, des compétences, aux tiers évidemment. Nous avons trouvé que cette situation consiste à dépouiller l'État de ses patrimoines et puis à les dépouiller de son autorité et aussi ça contraste avec l'État des droits. C'est pour cela que nous saisissons le gouvernement central par l'entremise des ministères de l'urbanisme et habitat et aussi les ministères de la justice.
Et puis, multiplicité des barrières sur la RN1, tronçon compris entre la ville de Kenge, chef-lieu de la province de Kwango, et la ville de Kinshasa. Les cadres de concertation de la société civile du Kwango qui dénoncent en a dénombré 17. D'après cette structure, ces barrières constituent un facteur de tracasserie dont sont victimes les usagers de cette route. La situation a été présentée au vice-premier ministre de la Défense nationale. C'était lors de son passage à Kenge lundi, rapporte les vice-présidents de cette structure. Symphorien Kwengo, il explique au micro de Irène Bomaluzolo.
Nous étions reçus en audience par son excellence, monsieur le vice-premier ministre de la Défense nationale. Et nous avions profité de sa présence ici à Kenge dans la province du Kwango. Nous, comme cadre de concertation provinciale de la société civile, pour lui faire part de nos inquiétudes par rapport à la multiplicité des barrières. Vous tenez que de Kenge jusqu'à Kinshasa, on compte pratiquement 17 barrières. Nous sommes en état de guerre, bien entendu. Le pays est agressé par le Rwanda, on le sait bien, mais nous pensons que placer des barrières comme ça, partout il faut descendre, les clients descendent, les passagers descendent, vous présentez la carte de lecteur, à côté de la carte de lecteur, vous devez payer 1000 francs congolais. Donc ça devient une tracasserie, ce n'est plus un problème d'ordre sécuritaire. Donc nous, comme cadre de concertation, on a saisi la balle au bon pour pouvoir présenter ces problèmes au VPM Défense. Il a été très réceptif, il nous a dit va s'imprégner de la situation pour qu'une solution durable soit rapidement trouvée.
Selon les cadres de concertation provinciale de la société civile, ces barrières sont notamment signalées à la sortie des Kenge, à la mission Lonzo, au pont Kwango, à Kabuba, à Mongata, au pont Lufimi et pont Maindombe. Situation sécuritaire dans l'est de la RDC, les congrès américains diligentent une mission de ses représentants à Kinshasa, conduite par Brian Fitzpatrick, représentant de la Pennsylvanie, et Lucy Tamlin, ambassadrice des États-Unis en RDC. Cette délégation a été reçue hier mercredi par le président de l'Assemblée nationale. Au cours des échanges, Vital Kamerhe a fait savoir à ses hôtes qu'il n'y aura aucune solution paisible face à cette situation si les Rwanda et l'Ouganda gardent leurs armées sur les sols congolais. Michel Kifindangoy.
S'adressant à la délégation des représentants du Congrès américain, le président de l'Assemblée nationale a brossé les grands défis que connaît actuellement la RDC, notamment sur le plan économique, social et surtout sécuritaire. Vital Kamerhe a réitéré la position de la RDC. Pour lui, la pacification de l'Est de la RDC passe par les retraits des troupes rwandaises et ougandaises du sol congolais. Vital Kamerhe sollicite donc l'implication des États-Unis afin d'amener le Conseil de sécurité de l'ONU à sanctionner le Rwanda et l'Ouganda, indexés par multiples rapports sur la guerre en RDC. En réaction, le chef de la délégation du Congrès américain rassure la disponibilité des États-Unis à soutenir la RDC dans sa démarche pour le développement. Brian Fitzpatrick.
L'objectif de notre mission était avant tout de renforcer les liens entre la RDC et les États-Unis d'Amérique, puisque nous avons une commission importante pour le commerce international et une commission pour la sécurité.
Pour clôturer leurs échanges, les deux parties se sont convenues d'approfondir leurs relations diplomatiques parlementaires afin de permettre à la RDC de bénéficier de l'expérience américaine.
Au Nord Kivu, il y a nécessité de prendre en toute urgence des mesures idoines en vue de renforcer la sécurité et la régulation au niveau de la borne numéro 13. C'est en substance ce qu'a déclaré le vice-premier ministre de l'Intérieur au moment de boucler hier mardi, le mardi dernier à Goma, sa visite de travail dans cette partie du pays. On se rappellera que la société civile a toujours qualifié la borne frontière 13, située à la frontière entre la RDC et le Rwanda, comme une porte qui favorise l'infiltration et la contrebande au profit des Kigali. Chris Mukand.
La borne numéro 13 est située en zone neutre, à proximité du village Rutagara, en territoire d'Inyiragongo. Cet espace est réputé pour sa porosité. Il est rapporté qu'à partir de cet endroit, des marchandises ramenées par camion des deux côtés de la frontière sont ensuite transportées par des motos à trois pneus dans l'une ou l'autre direction. Il y aurait de la fraude fiscale qui s'y pratiquerait. La borne 13 servirait également de voie d'évacuation clandestine des minerais en provenance du Nord Kivu vers l'extérieur. Il y a également lieu de passer la frontière tout en échappant au contrôle des services de migration à partir de la borne 13. La clameur qui entoure cette section de la frontière commune entre la République démocratique du Congo et le Rwanda a ainsi motivé le chef de la sécurité congolaise à y faire une descente. Le constat est que ce lieu favoriserait la contrebande et l'infiltration. Il faudrait dans un bref délai prendre des dispositions nécessaires et utiles pour répondre à toutes les préoccupations que soulève la borne frontière 13. Ont accompagné le vice-premier ministre Jacquemain Chabani sur le terrain, le général-major Peter Chirimwami, gouverneur du Nord Kivu, le vice-ministre de la Défense et les membres du Conseil provincial de sécurité. Chris Mukand, Goma, Radio Kapi.
Restons au Nord Kivu. Les déplacés des guerres et populations des zones occupées par la rébellion du M23 n'ont pas suffisamment bénéficié de la trêve humanitaire annoncée par les États-Unis. À deux jours de la fin de cette période, censée être sans armes ni bruit de bottes, aucune action de grande envergure en termes d'assistance alimentaire, par exemple, n'a été organisée dans la région de Butembo, Lubero, durant cette période. Quelques responsables d'ONG humanitaires affirment que cela est dû à de nombreuses contraintes auxquelles font face leurs organisations dans la région. En Ituri, des avancées significatives sont observées depuis 2021 dans la stabilisation et la protection des civils. Cela grâce aux efforts du gouvernement provincial et de la MONUSCO à travers la combinaison des approches à la fois militaires et non militaires pour la restauration de la paix. Ces propos sont de la chef adjointe de la MONUSCO en charge des opérations et de la protection tenue hier mercredi à Bunia. C'était au cours d'un point de presse pour clôturer sa mission de trois jours dans cette province. Selon Viviane Van Depper, ces opérations ont permis également de réduire les menaces des groupes armés locaux et des rebelles des ZDF. Elle reconnaît cependant que certains défis restent à relever, notamment vers Mongualou, dans les territoires de Djougou. La MONUSCO et les gouvernements vont continuer à travailler ensemble pour la restauration d'une paix durable, ajoute-t-elle. Un extrait de ses propos choisi par Isaac Remoyopi.
Ce que j'ai vu et entendu sur le terrain me permet de faire le constat suivant. Des avancées notables dans la stabilisation et la protection des civils dans la province de l'Ituri depuis 2021. Si les opérations conjointes ont permis de contenir la menace des groupes armés locaux, elles ont aussi permis de réduire significativement la menace des ADF contre les populations civiles dans les territoires d'Irumu et Mambasa. Il est réconfortant de constater que de nombreux axes routiers nationaux et de dessertes agricoles ont été sécurisés, permettant la libre circulation des biens et des personnes. Mais ces menaces sont encore présentes et nous allons continuer à travailler avec nos partenaires pour les réduire au minimum et, si possible, les éradiquer.
Ici à Kinshasa, difficile de rouler sur certaines routes à cause de leur état de délabrement très avancé. L'opération Kinshasa Zéro Trou n'a visiblement pas donné des résultats attendus par la population. C'est pénible pour les habitants de la commune de Kimbanseke de se déplacer chaque jour. Leur route principale, celle conduisant vers le marché et les cimetières, ainsi que celle de Mokali, sont impraticables. Sur celle qui quitte la place Sainte-Thérèse pour les cimetières de Kimbanseke, les travaux de réhabilitation se sont arrêtés depuis plusieurs mois. Plamedi Biavanga nous en parle dans ses reportages.
La route Mokali est très délabrée à partir de sa jonction avec les boulevards Lumumba jusqu'à l'arrêt Mabanza au quartier Kakuji. On se croirait sur une piste. À la place de la chaussée, on y trouve de la boue, de l'eau et des bouteilles plastiques drainées par une petite rivière qui borde la route. Piétons, chauffeurs et autres motards ont du mal à circuler. Des chutes de motos et autres trois pneus sont courants ici. Témoignage d'un taximen moto.
Depuis que cette route est délabrée, beaucoup de médias sont passés pour filmer et faire passer cela à la télévision. Mais aucune solution jusqu'à présent. Nous demandons au gouvernement de nous aider. Plusieurs mamans et femmes enceintes ne supportent pas traverser cette route.
L'autre route, celle qui va d'Njili au cimetière de Kimbanseke, pose aussi problème. Dit la paille, chauffeur des taxibus s'en plaint.
Nos pneus crèvent tout le temps, pas moyen de bien conduire, car des cailloux placés sur cette route nous dérangent vraiment. Et nous demandons aux autorités de nous venir en aide.
Maman Chimène, vendeuse au bord de cette route, exprime ses inquiétudes.
Quand ils ont commencé à ranger cette route, ils ont réparé juste une partie. Les restes sont restés sans suite. Ils nous ont demandé de les voter pour finir le reste. Nous n'allons plus jamais voter car nous souffrons. Quand la saison de pluie va commencer, nous pourrions prendre des pirogues pour nous rendre à Sainte-Thérèse.
La réhabilitation de ces deux routes aidera à améliorer la vie des habitants de Kimbanseke.
Actualité internationale.
Les forces vives des Guinées préparent une mobilisation face aux dérives de la junte. Les condamnations nationales et internationales se multiplient après l'enlèvement. Il y a une semaine, dans la nuit du mardi 9 au mercredi 10, des Fonike Mengue et Biloba. Au sein des forces vives des Guinées, les partis politiques préparent une mobilisation pour dénoncer la répression généralisée opérée par la junte du CNRD du président Mamadi Doumbouya.
L'invité.
Célébration ce jeudi de la Journée internationale Nelson Mandela qui nous rappelle que chacun à son niveau peut agir et inspirer les changements autour de lui. Cette journée a été instituée en 2009 par l'UNESCO pour honorer les 67 ans de lutte de Nelson Mandela au service de l'humanité en tant qu'avocat spécialiste des droits de l'homme, prisonnier des consciences, architecte international de la paix et premier président démocratiquement élu d'une Afrique du Sud libre. Pour en parler, le professeur Kaumba Lufumba, sénateur honoraire et auteur du livre Ubuntu, philosophie de Nelson Mandela, est l'invité de Radio Okapi. Il s'entretient avec Michel Kifindangoy.
Professeur Kaumba Lufumba, bonjour.
Bonjour, bien cher Michel Kifindangoy.
Nous célébrons ce jeudi la journée internationale Nelson Mandela. En quoi consiste cette journée?
Merci de m'associer à la célébration de la journée internationale qui est dédiée à cette immense icône africaine Nelson Mandela. La journée internationale Nelson Mandela, nous la célébrons aujourd'hui, le 18 juillet, parce que c'est une date qui coïncide avec l'anniversaire de naissance de Nelson Mandela. En fait, il était né le 18 juillet 1918. Il est décédé, comme nous le savons bien, le 5 décembre 2013. Et alors, depuis le 10 novembre 2009, l'UNESCO avait décidé de lui dédier une journée. Et c'est pourquoi on avait retenu la date de sa naissance. C'est une manière de rappeler à la